Les voix du livre. Une émission proposée par Fanny De Citre, de la librairie du Cyprès Jean de la Lune à Nevers, Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et Claire Garand, biographe chez mémorialiste.fr. Vous êtes bien sur BAC FM. Bonjour Fanny.
Bonjour Claire.
Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Nous accueillons aujourd'hui Lydie Salver, écrivaine, à l'occasion de sa venue au Festival Tandem. Elle est venue présenter une lecture musicale d'exception autour de Pas pleurer, son roman, qui a reçu le prix Goncourt en 2014. Et elle est venue aussi pour présenter une lecture croisée avec Bernard Wallet, son compagnon. Et nous écouterons tout à l'heure l'interview qu'elle a eu l'amabilité de nous accorder. Et moi, je me remets tout doucement des grands moments du festival. Vous pourrez retrouver toutes nos interviews en podcast sur bacfm.fr. Alors, d'Alice Zénitaire à Jean Materne, en passant par Arnaud Catherine, il y a le choix et beaucoup d'informations et de plaisir de lecture. Alors, moi, j'ai fait provision de lecture musicale avec bonheur, mais revenons dans le présent. Alors, je voudrais d'abord signaler la parution d'un recueil de nouvelles inédites de la très grande Catherine Mansfield aux éditions du Chemin de Fer. Alors, oui, vous m'avez bien entendu, inédites, alors en français, hein, parce qu'elles sont parues en revue en anglais. Et sur le livre, il y a un superbe bandeau blanc sur lequel Virginia Woolf, excusez du peu, se plaint de l'écriture de Catherine Mansfield en disant, je cite, « la seule écriture dont j'ai jamais été jalouse ». Ça donne envie d'ouvrir le livre. Et aussi un petit coup de projecteur sur la semaine de la francophonie qui aura lieu du 14 au 22 mars prochain. Et le 18 mars, l'association Lire et Faire Lire proposera des lectures de contes à la librairie France Loisirs. Alors toutes les informations sont disponibles dans le magasin rue François Mitterrand à Nevers. Mais Arthur, vous, on n'a pas besoin de vous faire la lecture. Vous êtes à combien de romans lus depuis le début de l'année?
Oh bah, c'est difficile à évaluer, mais je dirais une trentaine, quand même.
Voilà. Ça donne une petite idée. Et alors, parmi ceux-là, vous avez dû faire un choix drastique.
Ouais.
Qu'est-ce que vous nous proposez pour la rentrée littéraire d'hiver?
Alors, ce mois-ci, j'ai sélectionné deux romans qui déchirent. Alors, je vous le dis tout de suite, hein. En passant par « Je te plumerai la tête », un livre qui aborde un sujet peu commun, la perversion narcissique. Puis, avec « Ogresse », un roman à glacer le sang. Et c'est peu de le dire, vous verrez pourquoi après. On est gâtés en ce mois de février.
Eh bien, le mois de février, habituellement, c'est froid, mais là, ça va chauffer. Hein.
Oui.
Les pervers narcissiques, ça commence très fort. Alors oui, parlez-nous du pervers narcissique.
Bah, du coup, on va commencer par « Je te plumerai la tête », justement. Ce roman qui met en scène notre joli Lilou est résolument étrange. Dans ce nouveau livre, Claire Mazard va nous plonger dans un thème peu commun, la perversion narcissique. Depuis toute petite, Lilou adule son père. Elle est fan de lui, fait tout avec lui, et le préfère largement à sa mère.
Ouf.
Seulement, sa vie va basculer le jour où sa mère va apprendre qu'elle a un cancer. Lilou ne va pas savoir quoi faire, et sous les conseils de son père, ne va jamais aller la voir pour ne pas se rendre malheureuse.
C'est des conseils un peu bizarres, ça, hein?
Ouais.
Oui, voilà, c'est là que ça commence à devenir chelou.
Du coup, Lilou, elle l'écoute, elle continue à vivre sa vie, jusqu'au jour où elle lui désobéit et va voir sa maman.
Mm-hmm.
Et celle-ci pourrait bien lui révéler des choses sur son père qui bouleverseront à jamais la vie de la jeune fille.
Eh ben dis donc, c'est à la fois ça donne envie de le lire et en même temps on se dit que voilà, ça va être un petit peu
ça met
dur.
Mal à l'aise quand même.
Oui, et c'est intéressant parce que la perversion narcissique, on en parle quand même pas mal dans la littérature adulte.
Mais je trouve ça jeunesse.
Je trouve ça intéressant d'aborder le sujet.
C'est assez rare, oui. Ouais. Et ça permet peut-être un petit peu de désamorcer certaines situations, de savoir comment réagir dans ce roman.
Oui. Oui, quand même.
Alors, il nous révélera rien, mais il a raison. Pour le savoir, il faut le lire.
Ouais. Du coup, moi, j'ai été happé par les pages. Hein. Il était ensorcelant, ce roman. Mais il est nécessaire, hein. Même s'il met un peu mal à l'aise.
Mm-hmm.
Et c'est un coup de cœur pour moi, et je pense qu'il en sera de même pour beaucoup d'entre vous.
Et moi, ça me donne envie de le lire.
Mmh, même moi aussi.
Voilà. Bon, on n'a pas cet âge, mais il n'y a pas d'âge pour lire des bons livres.
Non, en vrai, c'est un livre ado-adulte. Hein.
Mmh. Mmh.
Alors maintenant, second roman, tout aussi étrange, mais d'une autre manière. Hippolyte vit avec sa mère depuis que ses parents se sont quittés. Depuis toute petite, elle lui fait manger d'énormes morceaux de viande qu'Hippolyte se force à avaler.
Ouf, ça commence fort.
Sauf qu'un jour, tout dérape. Sa mère commence à s'enfermer de longues heures dans la cave, et la jeune fille ne sait pas pourquoi.
Mystère.
Quelle est la raison de son comportement étrange? Et un jour, en rentrant de l'école, sa mère lui saute dessus et la mord.
Oula, alors là, alors. C'est... c'est pas la nuit des morts vivants. Ah oui, c'est affreux, c'est absolument horrible. C'est une vision de cauchemar. Oui, effectivement, donc ça, c'est oui, ça, c'est du brutal.
Le problème, c'est que je vous dirai pas pourquoi. Et bah non, vous bah le oui, saurez qu'en lisant le livre, hein, bien sûr.
Cela dit, ça donne très envie aussi de lire le livre. Alors, je ne sais pas, moi, ma mère ne m'a jamais sauté dessus non, pendant que je rentrais de l'école.
Pas
pour
encore.
Mais bon, j'avais commencé à avoir peur.
Bon, du coup, pour se mettre un peu dans le ton du roman, je vais vous lire un petit extrait de l'histoire. Chapitre 1. Deux pamplemousses. Hier soir, maman m'a fait manger du cœur. C'était du cœur de bœuf. Le cœur est notre muscle le plus puissant, et ça se sent quand on en mange. La viande résistait sous mon couteau à steak, il fallait la scier pour trancher les fibres. Elles cédaient comme des câbles tendus, l'une après l'autre. « Le cœur est un morceau remarquable, » a dit ma mère. « À la fois très maigre et très fort en goût. » Ma mère s'y gonnait bien en viande. J'ai rien répondu, j'en avais plein la bouche. « Le cœur est notre muscle le plus puissant, et le mien bat fort. Trop fort parfois. » Quand ça arrive, sa pulsation m'envahit le crâne et je n'arrive plus à penser à autre chose. Je n'entends même plus ce qu'on me dit. C'est comme se faire poursuivre par quelqu'un qui joue du tambour, jour et nuit, partout, toujours. Voilà, c'était le début du roman Ogresse.
Eh ben.
Ouh. Alors c'est un petit côté, ça rappelle un petit peu le roman que
oui,
vous avez chroniqué, Fanny.
Oui.
Ah oui, ah oui. Je rappelle.
Après, les auditeurs vont croire que nous avons des actions chez les bouchers.
Ou qu'on est des cannibales.
Ou qu'on est des cannibales, effectivement. Alors, eh bien, merci beaucoup, Arthur, pour ces suggestions carnées. En tout cas, très fortes. Mais qui donnent envie. Hein. Je pense que ça fait du bien aussi d'aborder des sujets un peu profonds, un peu forts, d'une manière aussi décomplexée. Parce que là, on a lu vous avez lu le début. Voilà, on rentre tout de suite dans l'histoire.
Oh. Alors, et oui. Pour les auditeurs qui veulent l'acheter quand même, je précise à dire qu'il est écrit par Eileen Manko et il est sorti au début du mois de février.
Ah bah c'est tout, il est tout frais. Il n'est pas encore faisandé, donc la chair est toujours raide. Voilà, donc à lire et à goûter sans modération. Merci Arthur, donc je rappelle que Arthur donc chronique régulièrement des ouvrages sur son compte Facebook et Instagram, donc c'est l'ado accro au livre, donc si vous n'en avez pas eu assez, et ce serait bien normal, vous en trouverez d'autres à découvrir dans tous les genres sur son compte et sur ses pages.
Et n'hésitez pas à venir m'envoyer un message si vous avez aimé les romans.
Mais
que
voilà.
J'ai proposé ce mois-ci.
Dites-lui, c'est grâce à vous que j'ai découvert ce roman et que je l'ai dévoré, bien sûr. Je me tourne vers Fanny. Vous dévorez des romans, Fanny, aussi?
Oui, ça m'arrive.
Des coups de cœur, le muscle le plus puissant. Je crois que ce mois-ci, c'était un petit peu difficile de trouver des coups de cœur.
C'était difficile, c'est vrai. J'en ai lu pas mal, hein, mais rien qui m'accrochait vraiment. Enfin, même, je suis allée de déception en déception.
Ah, c'est
bon,
dur.
Ça arrive, c'est comme ça. Je vous parlerai pas de ces livres, hein, du coup.
Bah non.
Mais heureusement, je suis tombée sur deux ouvrages où vraiment j'ai... Alors, je sais pas si c'est parce que j'en ai lu plein qui étaient pas très très bons et du coup, enfin, un bon livre et ça devient un coup de cœur énorme. Mais toujours est-il que le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est un livre des éditions Gallmeister. Alors, j'en ai déjà
parlé. Au hasard. C'est bizarre. Pourquoi Gallmeister? Voilà. Vous lisez Gallmeister, Fanny?
Ça m'arrive. Donc, je rappelle que c'est une maison d'édition qui publie essentiellement, enfin, uniquement de la littérature américaine. Et je sais que j'en ai déjà parlé, mais là, je pouvais pas ne pas en parler tellement ce livre m'a bouleversée. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un livre qui s'appelle « Ces montagnes à jamais » de Joe Wilkins. Mm-hmm. Et par contre, il va sortir le 5 mars, donc c'est bientôt, il faudra patienter un tout petit peu. En fait, ce livre, c'est le premier roman traduit en français de cet auteur. Il a déjà écrit un récit, mais qui n'est pas encore traduit, qui va paraître aux éditions Gallmeister également.
Est-ce que vous pouvez donner le nom du traducteur, peut-être? C'est
oui.
Toujours important, parce que la qualité de la
raison.
Traduction...
Alors, c'est Laura Derajinski. Mm-hmm. Voilà.
oui. Non, c'est, ça fait beaucoup.
Mais, non, mais vous avez raison de le préciser, et la traduction est excellente. Si ben ça voilà. peut rassurer voilà, les gens qui sont un peu réticents parfois oui, à lire de la littérature étrangère. Moi, j'ai trouvé ça d'une poésie folle. L'écriture est vraiment, vraiment magnifique. Et moi, j'aime bien ces livres qui allient une très belle écriture avec une histoire qui a un fond, qui a quelque chose à dire. Voilà, on fait souvent la différence, j'ai l'impression, entre les deux. Et quand les deux se rejoignent, c'est toujours...
C'est le bonheur.
Voilà, c'est très, très agréable. Donc justement, là, l'auteur, il a la volonté, en fait, de porter un message qui va au-delà de l'intrigue du livre, mm-hmm. qui pourrait se suffire à elle-même parce que l'histoire est vraiment très bien ficelée, très bien, très profonde. Donc, je ne vais pas en dévoiler trop sur le livre,
non.
ce serait vraiment dommage, mais en fait, le début du roman, on a Wendell, donc, qui est un jeune adulte orphelin qui vit dans le Montana, dans un mm-hmm. coin perdu qui s'appelle les Bull Mountains, mm-hmm. et il voit arriver les services sociaux à la porte de son mobilhome avec un petit garçon qui a une dizaine d'années, très chétif. Et les services sociaux lui annoncent qu'il est la dernière famille vivante qui pourrait s'occuper de ce petit garçon. Il se trouve que c'est son petit cousin éloigné. Voilà, donc on lui propose de mm-hmm. recueillir ce jeune garçon qui, on va l'apprendre, est atteint d'autisme.
Ah oui, d'accord.
Donc vraiment, voilà, quelque chose qui arrive dans votre vie comme ça.
Oui, c'est une sacrée surprise. Il s'y attendait pas vraiment.
Pas du tout. Non, c'était pas le
Il croyait
plan.
Être tranquille dans ses montagnes. Et ben, voilà. Pas du tout.
Et il dit oui tout de suite. Il dit oui tout de suite. Moi, j'adore ce personnage. Il est d'une gentillesse et d'une bonté. Voilà.
C'est un personnage.
Ouais. Et en fait, le livre va commencer par cette histoire d'amitié qui va se créer entre ces deux personnages et même d'amour. On pourrait parler d'amour comme d'un père à un fils. Mm-hmm. Donc ça, c'est le premier personnage. Et puis, on a un deuxième personnage qui est une femme qui va être CPE, en fait, l'équivalent d'un mm-hmm. CPE dans un collège américain, et qui va se battre pour contre en tout cas la déscolarisation d'un élève. Mm-hmm. On a ces deux intrigues qui vont finir par se rejoindre.
On s'en doutait
un peu. Je ne dévoile rien, mais
on verra
les destins vont se croiser. Voilà. Et alors, je vous disais que ça apportait un message plus grand que ça, parce qu'en fait, c'est le fond en fait, du livre va surtout parler du Montana. Principalement, évidemment, puisque mm-hmm. ça se passe là-bas. Et dans le Montana, il y a des loups. Oui. Et on a des agriculteurs, on a des ranchs avec du bétail. Donc, des gens qui sont contre le fait qu'il y ait des loups. Donc, ils sont pour la chasse aux loups. Mm-hmm. Et en fait, toute l'intrigue va être tournée autour de ce questionnement. On va avoir les deux points de vue. Pourquoi les agriculteurs ne veulent pas du loup et mmh. pourquoi les gens le défendent. Enfin, on a une problématique qui est très complexe, mais qui est très bien abordée. Mmh. On a les deux points de vue de manière très objective. Ils détaillent juste les faits. Mmh. Et puis, au-delà de ça, on a aussi qu'est-ce que l'appartenance à un lieu ? En quoi le fait de naître quelque part, ça détermine qui on devient ? Et aussi, quel héritage on transmet à ses enfants ?
Ah oui, en fait,
c'est foisonnant. Il y a plein de questions qui sont abordées. C'est un roman très, très riche. Il y aurait vraiment beaucoup à en dire.
Donc, il faut pas tout dire.
Non, voilà, je vais pas trop en dévoiler. Donc, vraiment, courez lire ce livre.
Donc, parution le 5 mars.
Parution le 5 mars, attention. Il va falloir être un peu patient.
Et vous avez un deuxième coup de cœur, alors.
Et j'ai un deuxième coup de cœur. Alors là, c'est un livre qui est sorti en 2006. Donc, pour le coup, qui n'est pas du tout... Enfin, qui n'est pas trop récent. Ça s'appelle « Comment va la douleur ?» de Pascal Garnier.
Depuis 2006, toujours mal, je crois. Mais... oui, c'est... Non, mais c'est pas gênant que ça soit de 2006. Hein. Quand c'est bon, ça demande à être relu, savouré.
Je l'ai découvert récemment et j'ai aucune idée s'il a eu un succès littéraire ou non. Mais en tout cas, je tiens à...
Il faut le défendre.
Voilà.
Si vous étiez passé à côté en 2006, maintenant, vous n'aurez plus aucune raison.
Et là, on a un livre qui n'a presque pas d'autre but que de raconter une histoire. Il n'y a pas un message comme dans le livre précédent qui est porté. C'est vraiment l'histoire pour l'histoire, mais qui est amenée avec une écriture que moi j'ai adorée justement.
Ah oui, l'écriture porte l'histoire. En
voilà.
Ah oui.
Je suis pas forcément attirée par la littérature française naturellement, Et là, vraiment, j'ai adoré l'écriture.
Oui, parce qu'il faut préciser aux auditeurs que ce n'est pas publié par Gallmeister.
Non. Je lis aussi d'autres livres. Non, ouais, édition Zulma, qui est aussi une toute excellente maison d'édition. Et là, on a un roman qui est vraiment tout en justesse. Il y a juste ce qu'il faut de loufoque, juste ce qu'il faut d'absurde, juste ce qu'il faut d'humour, de profondeur. Enfin, j'ai trouvé ça très, très équilibré. Et l'histoire est très simple. Pareil, je vais pas en dévoiler non plus parce que c'est un petit texte, donc ce serait dommage.
Oui, les auditeurs ne le voient pas, mais le livre est plus fin, peut-être deux fois plus fin que le précédent.
Voilà, il doit y avoir 150 pages à peu près. Mais en tout cas,
c'est du dense.
C'est du dense et c'est un vrai plaisir de lecture en fait. On a deux personnages qui vont se croiser par hasard dans une ville française, on ne sait plus vraiment laquelle. Ils vont se lier d'amitié. Et ils vont partir en road trip en direction du sud de la France. Je vous dévoile pas les raisons non plus, parce que ce serait dommage. Du coup, on va suivre ces deux personnages. Et moi, un des personnages est un peu plus âgé. Et j'ai tout de suite pensé à Jean-Pierre Bacri. Voilà, oui. J'imagine souvent les
vous
livres
l'avez vu,
adaptés en film. Et là, je l'ai vu pour ce rôle, dans le côté un peu bougon, un peu râleur.
On lui
s'il m'écoute. Voilà, le rôle serait parfait pour lui. Voilà, et du coup, je me suis dit que j'allais vous lire un petit extrait. Alors, c'est un extrait qui ne dévoile rien de l'histoire, qui est vraiment là. En fait, moi, c'est un peu personnel, mais ça m'a fait un peu une Madeleine de Proust. Parce que c'est une toute petite description d'un jour de marché. Et j'ai grandi, moi, dans une toute petite ville où il y avait un très, très gros marché tous les dimanches, où j'allais régulièrement. Et juste cette description m'a rappelé, souvenir d'enfance.
On écoute votre Madeleine.
Voilà. Les jours de marché, la rue Jean Jaurès était méconnaissable. Les étals de maraîchers installés sur les trottoirs de part et d'autre masquaient les vitrines aveugles des commerces défunts. L'étroitesse de la chaussée drainait un flot ininterrompu de quidam, dont les paniers débordants de victuailles se heurtaient, créant parfois des embouteillages piétonniers. L'air frais du matin épicé de senteurs diverses, fleurs, fruits, poulets rôtis, poissons, aurait tiré n'importe qui de la plus tenace anorexie. Les planches posées sur les tréteaux ployaient sous des montagnes de cerises que le soleil métamorphosait en amas de rubis étincelants. Simon ne put résister à s'en acheter une poignée qu'il croqua en marchant. Ici, pas de demi-teinte, rien que des couleurs vives et franches qui vous donnaient l'impression d'avoir l'œil vissé à un kaléidoscope. Les marchands haranguaient le chaland, improvisant ici et là de charmantes petites scénettes.
C'était votre Madeleine.
Voilà. Donc ça continue encore sur la description du marché que j'ai trouvé vraiment excellente.
Mais je pense
excellente.
Que ce sera une Madeleine pour beaucoup de gens, parce
oui,
que
j'ai l'impression,
c'est assez fondateur.
J'ai trouvé vraiment qu'il décrivait l'ambiance parfaitement bien.
Ben voilà qui donne envie.
Tant mieux.
On veut connaître ce personnage, on veut savoir pourquoi vous trouvez qu'il ressemble à Jean-Pierre Bacri.
Ouais.
Parce que là, ça ne se voit pas d'emblée.
Non, mais c'est pas frappant comme ça.
Mais justement, pourquoi? Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ces suggestions qui donnent vraiment envie de se plonger dans deux univers qui n'ont pas grand-chose à voir a priori qui n'ont pas non plus le même message. Donc,
non plus.
Ça, c'est intéressant d'avoir les deux.
Le lien, en fait, que moi j'ai trouvé, en tout cas, s'il faut en faire un, c'est des histoires qui sont aussi excellentes sur le fond que sur la forme. Voilà. Quand on peut allier une belle écriture,
mais
une belle histoire.
On ne conseille que du bon dans les voies du livre.
C'est vraiment.
Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup. Et je vous propose, avant de retrouver Lydie Salver, d'écouter son choix, Red House de Jimi Hendrix, sur lequel elle a écrit un livre il y a quelques années. Donc, voici Premier pas dans son univers. Thank you. C'était Red House de Jimi Hendrix, l'un des musiciens préférés de Lydie Salvert. Vous êtes bien dans les voies du livre sur Bac FM, émission consacrée à tous les livres et spécialement aujourd'hui à l'écrivaine Lydie Salvert, prix Goncourt en 2014 pour Pas pleurer, un roman où se croise la voix de Bernanos, le Bernanos des grands cimetières sous la lune, et celle de la mère de l'écrivaine qui, à 90 ans, a des trous de mémoire que sa fille essaie de comprendre. Alors, on est en pleine guerre d'Espagne, autant que dans un autre présent, et la plume de l'écrivaine est acérée. Et j'ai eu le plaisir de l'interviewer lors de sa venue pour le festival Tandem. Bonjour Lydie Salvert.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans les voies du livre pour une interview exceptionnelle, puisque c'est grâce à votre présence pendant le festival Tandem qui vient de se dérouler il y a peu que nous avons eu la chance de vous interviewer. Et c'était une occasion particulière puisque vous êtes écrivaine, vous êtes prix Goncourt 2014 et vous êtes venue avec votre compagnon dans la vie, Bernard Ouallet.
Oui, c'est ce qui nous a plus dans la proposition d'Arnaud Catherine pour Tandem, c'est que pour la première fois, on nous invitait ensemble, nous qui vivons ensemble dans la vie, pour lire, échanger et lire les textes de l'autre. Voilà, c'était une des choses qui nous amusait, qui nous plaisait, qui nous excitait de se retrouver ensemble sur une scène pour la première fois.
Oui, c'est une expérience un petit peu inattendue que vous a proposé oui. Là Arnaud Catherine.
Oui, oui. Arnaud Catherine qui a été publié très jeune par Bernard Ouallet, justement. Et ces deux-là ont gardé depuis un lien très fort.
Eh bien,
et en nous venant sur ces terres en plus.
Oui, tout à fait.
Nous sommes déjà venus sur ces terres, mais c'est un plaisir d'aller jusqu'à lui.
Et puis surtout pour une expérience pareille. Alors justement, vous parlez de lecture.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il faut être un grand lecteur pour pouvoir écrire, vous qui avez écrit justement Pas pleurer, notamment sous l'effet des grands cimetières sous la lune, entre autres?
Mais bien, j'ai le sentiment que si je suis ce que je suis aujourd'hui, et je le dis sans emphase vraiment, c'est parce que j'ai été très jeune lectrice.
Très jeune.
Vraiment, j'ai lu très jeune. Le premier livre que je lis, c'est de Pierre Loti,
oui.
Sans famille.
Mm-hmm. Ça vous a marqué?
Mais complètement, parce que je vois le monde autrement. Et je me rends compte, en lisant Sans famille, qu'être pauvre, par exemple, n'est pas une honte, n'est pas un déshonneur. n'est pas un malheur absolu comme je crois que ça l'est dans mon enfance. Ça a vraiment modifié mon regard sur les choses et je n'ai cessé de lire depuis l'enfance, vraiment. Donc je ne peux dire qu'une chose, c'est que pour moi, le plaisir de lire et le plaisir d'écrire sont indissociables, absolument indissociables. Que je me suis constituée par la lecture, que je me constitue en écrivant et que l'un et l'autre me sont aussi nécessaires que l'air et que l'eau, vraiment,
ah oui.
Vraiment.
Vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche, mais de lecture et d'eau fraîche.
De lecture et d'écriture, oui, oui, vraiment, vraiment. Il y a des périodes pendant lesquelles je ne lis pas, et ce sont des périodes que je n'aime pas.
Ah oui.
Alors je ne lis pas parce que, je ne sais pas, parce que j'ai été malade, parce que je me mets à désaimer la lecture, mais...
Oui, vous ne trouvez peut-être pas le livre qui vous donne envie à ce moment-là,
voilà,
peut-être aussi.
Voilà, il faut trouver le livre qui va me donner un coup sur la tête, comme disait Kafka.
Ah oui, effectivement, oui, c'est oui le fameux coup pour briser aussi la glace dont parlait Kafka. C'est votre vision de la lecture.
Qu'elle brise en nous la mer gelée, mais c'est ce que font les grands livres, hein, bien sûr.
Est-ce que c'est aussi pour cette raison qu'on retrouve un certain nombre de citations dans certains de vos romans ou une importance de la littérature ?
Sans doute. C'est aussi ma dette que je restitue. Et c'est ma bibliothèque portative que je fais exister dans ce que j'écris. Mais c'est vrai que le dernier, notamment, Marché jusqu'au soir, est scandé par des citations de Berlanoz, mais aussi de Baudelaire et d'autres.
C'est vraiment une scansion, oui, tout à fait. Et pour vous, ça fait partie de votre héritage littéraire, en fait.
Oui, quand je dis c'est ma bibliothèque portative, ces livres sont là. Ils nous constituent.
Ils vous habitent un peu aussi.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Parce que souvent, dans vos livres, on entend leur voix. Par exemple, oui, vous avez parlé de votre dernier livre, dans Tout homme est une nuit aussi. On voit un certain nombre de voix d'auteurs dans Pas pleurer. Mais il y a aussi d'autres voix. Lorsque vous écrivez, vos romans utilisent très souvent des voix hein, pour faire entendre leur histoire. Pourquoi ce choix ?
Mais j'aime infiniment la polyphonie. Rien ne me glace plus qu'une écriture qui serait, comment dirait-on, monovoque,
oui,
d'une seule voix. D'abord parce que nous sommes nous-mêmes constitués d'un certain nombre de voix. Hein. Mm-hmm. Il y a le registre que j'utilise avec Bernard Ouallet, mais celui que j'utilise avec ma boulangère, qui n'est pas le même que celui que j'utilise avec mes professeurs, etc. Nous sommes
constitués
des voix
différentes. De voix.
Mm-hmm. Les voix politiques qui nous traversent, les voix de l'opinion, la voix des chansons. Nous sommes constitués d'une infinité de voix. Et j'aime à les rendre vivantes, ces voix qui nous habitent tous.
Et justement, vous les faites
exister. Et une voix,
exister.
Quand il y a une voix unique dans un livre, ça me glace. J'ai l'impression que le totalitarisme, c'est ça. Une
ah
seule
oui.
voix qui dit une seule chose. Non, non. Le monde est fait d'une infinité de registres, de voix, de genres, et il faut en faire son miel.
C'est ce que vous faites exister dans vos romans, toutes ces voix.
Mais j'aime à le faire, j'aime à le faire. Et vous parliez de Pas pleurer. Il y a la voix de Berlanoz, bien sûr. Mm-hmm. Il y a la voix de la mer, il y a la voix des chansons, il y a la voix des journaux politiques, il y a les voix du café, vous voyez, c'est...
Et vous faites entendre même des voix parfois dissonantes. Je pense à « Tout homme est une nuit » où on a des voix de personnes qui discutent au café qui sont particulières.
Oui.
Donc vous n'avez pas peur de ces voix, de les faire exister.
Je me dis qu'il est important qu'on sache qu'elles sont là. Vous parlez des voix de ces personnes qui sont dans un café et qui ont un discours extrêmement... xénophobes, sinon racistes, qui ont peur de tout ce qui ressemble à l'étranger, et elles font partie du monde, de notre monde. Et
elles font partie de la polyphonie qui nous environne,
bien
et dont
sûr,
vous souhaitez la restituer aussi.
Oui, il n'y a pas que des voix jolies, joyeuses et qui chantent bien.
Alors justement, ce sont aussi des voix qui ont marqué votre vie, hein, je pense. Vous, comme vous parliez de pas pleurer, votre vie, votre vraie vie a inspiré certains textes
oui.
de manière très profonde. D'ailleurs, on le perçoit très clairement. Quelle est l'importance du réel dans votre inspiration?
Mais vous savez, Sigmund Freud parlait, lorsqu'il faisait allusion aux biographies de ses patientes, de roman familial.
Mmh.
Il voulait dire par là que dans chaque personne qui dit des choses sur elle et sur sa vie, il y a une part romanesque, une part imaginaire et une part réelle, vraiment. Et pour avoir été pédopsychiatre de longues années, dans une même famille, je pouvais avoir un enfant qui me disait « je déteste ma mère, elle est ci, elle est là
mm-hmm. »
et sa sœur qui disait « j'aime ma mère, qui est merveilleuse, qui est une fée, etc. » alors que les deux avaient été élevés de la même manière. Le roman familial. Chacun, me semble-t-il, écrit son roman et il est difficile, à partir d'un réel donné, à partir de données exactes, il y a tout ce qu'il projette d'imaginaire à partir de ce réel. Et je crois que nous sommes tous pris dans ce roman familial, il me semble en tout cas.
Et pour vous, c'est important de parler de ce roman familial, de parler d'utiliser les morceaux, les bribes
ce qui m'a fondé, ce qui m'a constitué. Mais ce dont je m'aperçois en vieillissant, c'est que les masques de la fiction que je portais au tout début de ma carrière, on va dire sans guillemets d'écrivain, petit à petit tombe, et le dernier, Marché jusqu'au soir, n'a quasiment plus de masque. Il n'y a quasiment plus de fiction. Vous voyez?
Vous êtes donc passé de la fiction à la réalité, au réalisme? Comment vous définiriez
pas du tout, non. Au
ce
début,
vous écrivez.
Fiction et réel, on va dire, mêlés. Et plus j'avance, plus les masques tombent. Ça ne veut pas dire que pour autant je sois d'une objectivité clinique réaliste. Il y a toujours cette histoire de roman familial. Mais les masques en moins, en tout cas moins de masques. Je sais pas si, peut-être je me fais pas comprendre quand je...
Si, je pense que c'est assez clair. Les masques, est-ce que vous voulez dire quelque chose, en tout cas, derrière lequel vous vous cachez? C'est à ça que sert le masque.
Voilà. C'est-à-dire que dans les premiers romans, je ne parlais jamais directement de ma mère ou de mon père ou de mon village. Je prenais des noms de fiction, un village de fiction et des événements plus ou moins fictionnels. Voilà.
C'était par pudeur, c'était par choix, c'était plus ou moins involontaire, inconscient.
Je ne sais pas comment le dire. Je crois que le fait d'avoir été malade, d'avoir eu un cancer, et de m'être vécu comme étant mortel, puisque je me croyais immortel,
fait
que plus ça va, plus je dis ce qui est de moi, sans prendre des gants, sans fiction, sans mensonge fictionnel, comme dirait l'autre. Je pense que je me demande si ça n'est pas lié justement à l'épisode de la maladie, cette espèce de désir de dire sans artifice.
Qu'est-ce que vous apporte l'absence d'artifice dans votre écriture?
En tout cas, pour marcher jusqu'au soir, ben j'y dis que je dis, par exemple, de mon rapport au père, a été, je crois, infiniment libérateur. C'est une chose que j'avais tue pendant plus de 70 ans. Hein, et d'être parvenu à le dire a été quelque chose de vraiment d'important pour moi. Et je me disais en l'écrivant que certains meurent probablement sans avoir pu dire des choses très capitales De leur vie, de leur enfance.
Des choses que vous n'avez pas pu dire dans la fiction, enfin avec votre masque. Oui.
Non.
Ou en tout cas, ça n'aurait pas été aussi libérateur.
Si, je le disais, mais justement, de façon très transposée, il y avait des hommes autoritaires, des hommes mauvais, des hommes paranoïaques, il y en a. Mais jamais je ne parvenais à dire qu'il s'agissait de mon père, jamais.
Et là, vous, effectivement, le texte est, est, alors je ne sais pas, je, ça tout dépend de ce que les auditeurs ont lu, mais effectivement, c'est un texte dont on ne sort pas indemne d'ailleurs, qui est quand même très fort, comme la majorité des textes que vous écrivez. Vos personnages, vos histoires jouent d'ailleurs beaucoup sur la provocation, sur la remise en question de différentes formes d'ordre. Vous parliez d'hommes autoritaires tout à l'heure, l'ordre moral, mais l'ordre esthétique aussi. Hein, je pense que le livre dont vous parliez l'évoque, la religion. Est-ce que pour vous, la littérature est pour vous un média de contestation aujourd'hui ?
Mais vous savez, je vais vous redire cette phrase que j'ai dit dès le début parce que pour moi, elle est inoubliable. À quoi bon un livre qui ne nous morde pas, dit Kafka, qui ne nous donne pas un grand coup sur la tête ? À quoi bon écrire si c'est pour redire le ronron qu'on trouve partout et sans que ça nous morde ? La littérature, me semble-t-il, doit mordre. Et doit faire mal au besoin ou du bien, mais en tout cas, elle ne peut pas nous bercer dans un doux ronron. Et ces gens qui disent, moi, je lis pour m'endormir, quelque chose d'absolument inconcevable.
Alors peut-être qu'ils lisent pour s'endormir, mais vous, vous écrivez pour réveiller, je pense.
En tout cas, les livres que j'aime, je les aime parce que précisément ils m'éveillent, ils me font réagir, ils me provoquent, ils me dérangent, ils me sont déplaisants.
Ah oui.
Vous savez, je crois que c'est Baudelaire dans Tout homme et demi,
oui.
Il dit que l'écrivain, c'est celui qui a l'artiste, c'est celui qui a le plaisir aristocratique de déplaire. Voilà.
Et vous vous reconnaissez tout à fait dans cette situation.
Ben, j'ai pas toujours le courage de déplaire, sûrement.
Vous avez pris ce courage quand même quand vous avez écrit le petit traité d'éducation lubrique, c'était pas évident.
Non, là j'avais pas l'impression vraiment que c'était déplaisant. Là c'était pour rire. C'est un livre qui s'amuse, qui sourit, qui. Je l'ai écrit juste après le Goncourt, c'était sans doute une façon de dire « Tu ne vas pas te prendre au sérieux parce que tu as le prix Goncourt et donc écrire un petit traité comme ça, amusant, ça, à la fois ça m'a fait du bien et ça me chassait de tout esprit de sérieux. »
Mais d'ailleurs, on retrouve beaucoup d'humour dans votre œuvre, parce que c'est vrai que de loin, on pourrait se dire « Ouh là là, mais c'est des sujets lourds, c'est des sujets graves », mais il y a énormément d'humour. Moi, quand j'ai lu « Les belles âmes », je résume très très brièvement, hein, il s'agit de faire un tour du monde de la misère, monde d'Europe, de la misère, pour aller voir des gens pauvres. C'est extrêmement drôle, c'est très cynique, c'est très caustique, mais c'est drôle. Et il fallait oser quand même. Et donc, je voudrais le dire pour les auditeurs, parce que c'est vrai que là, on a parlé d'auteurs, de choses assez un petit peu graves quand même.
La guerre d'Espagne, etc. Mais,
voilà, et puis, c'est un humour, c'est pas l'humour qui endort comme œuvre. Non, c'est un humour qui réveille. Ça, c'est sûr.
J'aime bien les livres rieurs, mais les livres des autres rieurs, j'aime beaucoup. Et j'ai une passion pour Rabelais.
Ah, bah oui. Ce n'est pas surprenant quand on lit vos romans.
C'est un énorme éclat de rire. Non, j'aime infiniment.
Et alors, justement, aujourd'hui, vous avez quand même plusieurs romans derrière vous. Vous avez reçu le prix Goncourt. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui encore à continuer à écrire ?
Mais c'est pour me vérifier vivante, je crois.
Pour être sûre que vous n'êtes pas en train de dormir complètement.
Et voilà, ou pire, même, je suis morte.
Alors, je vous rassure, vous n'avez pas du tout l'air morte. Donc, c'est une manière de vous redonner, en fait, cette preuve que vous êtes toujours vivante.
Mais j'ai l'impression que je suis vivante quand j'écris, oui.
La littérature, c'est la vie, en fait.
Oui, et réciproquement. Et la vie, c'est la littérature, oui.
Eh bien, écoutez, c'est une magnifique citation pour clôturer cette interview, puisque c'est déjà malheureusement le moment de terminer.
Eh bien, merci infiniment, merci beaucoup.
C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. à cette interview. Et j'espère que toutes les personnes qui ont pu assister à vos deux lectures pendant Tandem vont garder précieusement les souvenirs de ce qu'ils auront vu, entendu et ressenti. Et bien sûr, ils peuvent les retrouver en lisant vos romans, qui sont extrêmement variés. Moi, j'invite les auditeurs à regarder toute votre bibliographie. Il y en a forcément au moins un qui les intéressera, qui les intriguera, parce que le panel est très large. Eh bien, merci encore, Lydie Salver, pour votre amabilité.
Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
J'espère que cette interview vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir cette autrice et ses romans aux voix étonnantes. Merci à toutes les voix et merci encore à Lydie Salver. L'équipe des Voix du Livre vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de BAC FM.